Vous avez franchi la première porte, la porte de bois, dit Elemakil. Le chemin est par là. Il nous faut nous hâter. Jusqu'où menait cette route profonde, Tuor ne le pouvait deviner. Et les yeux fixés devant lui, une grande fatigue l'envahit comme un nuage. Un vent aigre sifflait sur le parement des pierres et il s'enveloppa dans son manteau. « Froid est le vent qui souffle du royaume caché, » dit-il. « Oui, en effet, » dit Volonwë. « À un étranger, il pourrait paraître que l'orgueil a endurci le cœur des serviteurs de Turgon. Le chemin qui passe par les sept portes sera long et ardu pour ceux qui ont faim et qui sont épuisés. Notre loi aurait-elle été moins rigoureuse que la ruse et la haine auraient trouvé à s'insinuer depuis longtemps et nous auraient détruits, tu le sais bien, dit Elemakil. Mais nous ne sommes pas dénués de toute pitié. Il n'y a pas de nourriture ici, et l'étranger ne peut repasser une porte une fois qu'il l'a franchie. Prenez un peu patience, et à la deuxième porte, vous trouverez soulagement.
Fort bien, dit Tuor.
Et il poursuivit sa marche comme on le lui enjoignait. Après quelque temps, il se retourna et vit que seul le suivait Elemakil, accompagné de Volonwë. « Il n'est plus besoin de garde, » dit Elemakil, devinant sa pensée. « De Lord Falk, ni elfe ni homme ne peut s'échapper, et il n'y a point de retour. » Ainsi allait-il sur le chemin escarpé, parfois empruntant de longs escaliers, parfois des pentes sinueuses, sous l'ombre terrifiante de la falaise, jusqu'à une demi-lieue environ de la porte de bois. Et là, Tuor constata que le chemin était barré par un grand mur bâti au travers du ravin, d'une paroi à l'autre, flanqué de fortes tourelles de pierre. Un passage voûté avait été ménagé dans le mur, mais des maçons, semblait-il, l'avaient obstrué d'une seule pierre massive. Comme il s'en approchait, sa face sombre et polie brillait à la lumière d'une lampe blanche pendue au mitant de l'arche. « Ici se dresse la deuxième porte, la porte de pierre, » dit Elemakil. Et il s'en approcha et la poussa légèrement. Elle pivota sur des gonds invisibles jusqu'à se présenter de biais, leur libérant le passage de part et d'autre. Et ils pénétrèrent dans une cour où se tenaient de nombreux gardes, tous de gris vêtus. Pas un mot ne fut prononcé, mais Elemakil conduisit ceux qui étaient confiés à sa charge dans une salle, sous la tour nord. Et là, on leur apporta de la nourriture et du vin, et ils eurent loisir de se reposer un temps. « Maigre chair trouveras-tu, » dit Elemakil à Tuor, « mais si tu justifies tes prétentions, dès lors tu seras richement pourvu. »«
Il y a en suffisance, » dit Tuor, « faible est le cœur qui a besoin d'un meilleur remède. »
Et de fait, il se trouva si ragaillardi par le boire et le manger des Noldor qu'il fut bientôt pressé de repartir. Sous peu, ils atteignirent un rempart encore plus haut et plus formidable que le précédent. Et dans ce mur était enchâssée la troisième porte, la porte de bronze, un gigantesque portail à double battant, tout caparaçonné de plaques de bronze et de boucliers incrustés de figures et de signes étranges. Trois tours carrées surmontaient le linteau, toutes revêtues de cuivre qui, grâce au savoir-faire du forgeron, gardait son éclat et chatoyait comme flamme sous les rayons des lampes rouges placées, telles des torchères, le long du mur. Là encore, ils passèrent silencieusement la porte et virent dans la cour une compagnie plus nombreuse de gardes dont les côtes annelées étincelaient d'un feu mat et le tranchant de leurs haches était rouge. Et du peuple des Sindar, originaire du Nevrast, étaient la plupart de ceux qui tenaient cette porte. Et ils parvinrent ainsi au chemin le plus ardu, car au cœur de Lord Falk, la pente se faisait plus abrupte. Et peinant pour la gravir, Tuor aperçut la plus considérable des murailles qui se découpait obscurément au-dessus de lui. Car ils approchaient enfin de la quatrième porte, la porte de fer forgé. Haute et noire était cette muraille que nulle lampe n'éclairait. Elle portait quatre tours de fer, et entre les deux tours centrales était sertie l'image d'un grand aigle en fer forgé, à la semblance même du roi Thorondor, lorsque du plus haut des cieux, il se pose sur une montagne. Et comme Tuor se tenait là devant la porte, tout étonné, il eut le sentiment que son regard passait à travers les rameaux
et les branches d'arbres immortels jusqu'à une pâle clairière de la lune. Car une lumière fusait entre les arabesques de la porte, travaillée et martelée en forme d'arbres aux racines tortueuses et aux branches entrelacées, toutes chargées de feuilles et de fleurs. Et comme Tuor franchissait le seuil, il comprit comment cela se pouvait. Le mur, en effet, était d'épaisseur considérable, et il n'y avait non pas une grille unique, mais bien trois grilles disposées à la suite les unes des autres, de sorte que pour qui les abordait de front, chacune concourait à l'image d'ensemble. Mais la lumière au-delà était la lumière du jour. Ils dominaient maintenant de très haut les basses terres d'où ils étaient partis. Et passé la porte de fer, la route se déployait presque à plat, et ils avaient laissé derrière eux le sommet et le cœur des Écoriath. Et les tours des montagnes s'affaissaient désormais rapidement vers les collines en contrebas. Et le ravin s'évasait, et ses parois se faisaient moins escarpées. Ses longs épaulements étaient revêtus de neige blanche, et la lumière du ciel, reflétée par la neige, se déversait aussi diaphane que la lumière de la lune à travers la brume scintillante qui flottait dans l'air. Et voici qu'ils traversaient les rangs des gardes de fer qui se tenaient derrière la porte. Noirs étaient leurs manteaux, et noirs leurs boucliers et leurs cottes de mailles, et la visière de leur casque en bec d'aigle leur masquait le visage. Et les Maquil prit la tête, et ils le suivirent dans la pâle clarté. Et Tuor vit sur le talus des touffes d'herbe où fleurissaient, telles des étoiles, les blanches corolles de l'huilos, ou mémoire éternelle, qui ne connaît point de saison et jamais ne se fane. Et ainsi, plein d'étonnement et le cœur en liesse, il fut conduit devant la porte d'argent. Le mur de la cinquième porte était de marbre blanc, et bas et massif. Et le parapet était un treillis d'argent ajointant cinq puissants globes de marbre. Et là se tenaient de nombreux archers vêtus de blanc. Le portail était formé de trois arcs de cercle, façonnés dans l'argent, et les perles du névraste à la semblance de la lune. Et au-dessus de la porte, sur le globe central, se dressait l'image de l'arbre blanc, tel Périon, tout d'argent ciselé et de malachite, et les fleurs étaient ouvrées dans des grosses perles de balar. Et au-delà de la porte, dans une vaste cour pavée de marbre blanc et vert, veillaient des archers maillés d'argent, portant le casque à cimier blanc, une centaine de part et d'autre. Lors, Elemakil conduisit Tuor et Volonwë entre leurs rangs silencieux, et ils s'engagèrent sur une longue route blanche qui menait droit à la sixième porte. Et comme ils allaient, l'herbe gagnait les talus, et parmi les blanches étoiles de l'huilos, s'épanouissaient quantités de menues fleurs telles des prunelles d'or. Et ils parvinrent ainsi à la porte d'or, la dernière des antiques portes de Turgon, édifiée avant les Nirnaeth. Et elle ressemblait fort à la porte d'argent, sinon que le mur était de marbre jaune, et les globes et les parapets d'or rouge. Et il y avait six globes, et sertis parmi eux, sur une pyramide dorée, une image de l'Aureline, l'arbre du soleil, avec ses fleurs de topaze qui pendaient en longues grappes à des chaînes d'or. Et la porte elle-même était ornée de disques d'or radiés à la semblance du soleil, enchâssés de grenats, de topazes et de diamants jaunes. Dans la cour au-delà, 300 archers étaient déployés et équipés de grands arcs, et leurs cottes étaient maillées d'or, et de hautes plumes d'or flottaient à leurs cimiers, et leurs grands boucliers ronds flamboyaient. Le soleil à présent frappait la route au loin, car la pente des collines s'adoucissait et verdoyait de part et d'autre, sauf pour la neige qui couronnait leurs cimes. Et Elemakil se hâtait en avant, car on approchait de la septième porte, dite la Grande, la porte d'acier que Maeglin forgea à son retour des Nirnaeth, barrant la large entrée de l'Orfalk Ekor. Nul mur ne s'élevait là, mais de part et d'autre faisaient saillie deux tours rondes d'une très grande hauteur et aux nombreuses fenêtres. Et ces tours allaient en diminuant sur sept étages pour se terminer en un campanile d'acier poli. Et reliant les tours, la puissante grille d'acier qui ne rouillait point chatoyait froide et blanche. Il y avait sept grands piliers d'acier pareils, pour la hauteur et la circonférence, à de jeunes arbres vigoureux, mais s'achevant en une pointe acérée comme celle d'une aiguille. Et entre les piliers, 7 traverses d'acier. Et dans chaque entre deux, 7 fois 7 barres de fer vertical couronnées d'une lame de la largeur d'un fer de lance. Mais au centre, coiffant le pilier du milieu, le plus massif, on avait érigé une puissante image de l'emblème royal de Turgon, la couronne du royaume caché, toute sertie de diamants. Tuor ne vit pas de porte ménagée dans cette forte haie de fer, mais comme il s'approchait des interstices entre les barreaux, il en jaillit, à ce qu'il lui sembla, une lumière éblouissante, et il se voila les yeux et demeura immobile, encore plein d'effroi et d'émerveillement. Elemakil s'avança, et nulle porte ne s'ouvrit à son toucher. Mais il frappa un barreau, et la grille résonna comme une harpe aux cordes multiples, émettant des notes cristallines en harmonie qui se répondaient d'une tour à l'autre. Et sitôt des cavaliers sortirent des tours, et à la tête de ceux issus de la tour nord, vint un homme sur un cheval blanc. Et il mit pied à terre et marcha vers eux. Et si fier et noble que fut Elemakil, plus fier encore et magnifique était Ectelion, seigneur des fontaines, et à cette époque, gardien de la grande porte. Il était tout vêtu d'argent, et son casque brillant était surmonté d'un dard d'acier à pointe de diamant. Et lorsque l'écuyer prit son bouclier, il étincela comme s'il avait été semé de gouttes de pluie, car il était constellé de centaines de cabochons de cristal. Elemakil le salua et dit
« Voici Voronwë Aranuion, que j'ai escorté ici à son retour de Balar, et voici l'étranger qui l'a conduit en ce lieu et qui demande à voir le roi. »
Ectelion se tourna alors vers Tuor, mais celui-ci s'enveloppa dans son manteau et ne dit mot, lui faisant face. Et à Voronwë, il sembla qu'une nuée revêtait Tuor et qu'il croissait en stature jusqu'à ce que la pointe de son haut capuchon domina le casque du seigneur elfe, telle la crête d'une vague marine déferlant grise sur la grève. Mais Ectelion posa son regard brillant sur Tuor et, après un silence, parla gravement, disant
« Tu es parvenu à la dernière porte. Sache donc qu'un étranger qui l'a franchi jamais plus ne s'en retourne, sinon par la porte de la mort. »
Ne donne pas voix à des présages funestes. Si le messager du Seigneur des Eaux passe par cette porte, alors tous ceux qui demeurent ici le suivront. Seigneur des Fontaines, ne fais point obstacle au messager du Seigneur des Eaux.
Alors Voronwë et tous ceux qui se tenaient alentour contemplèrent de nouveau Tuor avec étonnement, frappés de stupeur par ses paroles et par sa voix. Et Voronwë crut entendre une voix puissante, mais semblable à celle qui appelle de très loin. Quant à Tuor, il lui semblait qu'il s'écoutait parler comme si quelqu'un d'autre s'exprimait par sa bouche. Un instant, Ectelion demeura silencieux, contemplant Tuor, et peu à peu l'émerveillement se peignit sur ses traits, comme s'il pouvait distinguer, dans les ombres grises du manteau de Tuor, de lointaines visions. Lors, il s'inclina et se dirigea vers la grille et y posa les mains et les portes s'ouvrirent vers l'intérieur, de part et d'autre du pilier de la couronne. Et Tuor passa outre, et foulant l'herbe foisonnante qui surplombait une douce prairie en contrebas, il entrevit au loin Gondolin, environnée de blanche neige. Et si enchanté fut-il que de longtemps il ne put détacher ses yeux, car il voyait enfin la vision de son désir née des rêves de son languir. Il se tenait ainsi debout et ne prononça nulle parole, et silencieuse, veillait de part et d'autre les troupes de Gondolin. Chacun des 7 types de gardes postés aux 7 portes se trouvait là représenté, mais leur capitaine et leur chef étaient à cheval, tout en blanc et gris. Et tandis que frappé du prodige, il contemplait Tuor, le manteau de celui-ci tomba, et il leur apparut revêtu de la puissante livrée du Nevrast. Et nombreux parmi eux étaient ceux qui avaient vu Turgon en personne suspendre ce harnois au mur, derrière le grand siège de Vinyamar. Et Ectelion enfin parla.
Il n'est plus besoin d'autres preuves, et même le nom qu'il revendique en tant que fils de Uor importe moins que cette lumineuse vérité qu'il est messager d'Ulmo en personne.
Note de Christopher Tolkien. Le récit s'achève finalement ici, et il ne reste plus que des indications hâtives sur le déroulement ultérieur de l'histoire. Tuor demande le nom de la cité et on lui livre sept noms. On notera, et il s'agit sans doute d'une intention délibérée, que le nom de Gondolin n'est pas une seule fois utilisé dans le récit avant les toutes dernières lignes. Il n'est question que du royaume caché ou de la cité cachée. Ectelion donne ordre de faire retentir le signal et on sonne de la trompette sur les tours de la grande porte, et les collines renvoient leurs échos. Après un silence, on entend les trompettes au loin faisant réponse depuis les murs de la ville. On amène des chevaux, pour Tuor un cheval gris, et il chevauche vers Gondolin. Devait suivre une description de Gondolin, les escaliers menant à la haute terrasse et le gigantesque portail, les monceaux, ce mot n'est pas certain, de Malorn, de bouleaux et d'épineux, la place de la fontaine et la tour du roi dressées sur une arcade à piliers, la maison du roi et la bannière de Fingolfin. Sur ce, Turgon lui-même devait apparaître, le plus grand de tous les enfants du monde, hormis Fingol, avec une épée blanche et or dans un fourreau d'ivoire, et il devait souhaiter la bienvenue à Tuor. On devait voir Maeglin debout, à la droite du trône, et Idril, la fille du roi, assise à sa gauche. Et Tuor devait s'acquitter du message d'Ulmo, soit de façon que tous puissent entendre, soit dans la salle du conseil. D'autres notes éparses indiquent qu'il devait y avoir une description de Gondolin telle que Tuor l'avait entrevue au loin. Que le manteau d'Ulmo devait disparaître lorsque Tuor prononçait le message adressé à Turgon. Qu'on expliquerait l'absence d'une reine à Gondolin et qu'on préciserait, soit à l'instant où Tuor aperçoit Idril pour la première fois, soit avant, qu'il n'avait eu l'occasion de connaître ou même de voir que peu de femmes au cours de son existence. On avait envoyé au sud la plupart des femmes et tous les enfants du groupe d'Anaël au Mithrim. Et durant sa captivité, Tuor n'avait pu voir que les femmes orgueilleuses et cruelles des Orientais, qui le traitaient comme une bête, ou les misérables esclaves contraintes de peiner dès l'enfance et pour qui il n'avait que pitié. On notera que les mentions ultérieures de Malorn à Númenor, au Lindon et en Lothlorien ne suggèrent nullement, mais n'excluent nullement non plus que ces arbres aient pu fleurir à Gondolin dans les jours anciens. Quant à la femme de Turgon, Elenwë, on apprend dans le Silmarillion qu'elle périt longtemps auparavant lorsque la cohorte de Fingolfin franchit le Helcaraxé.